Bien le bonjour et bienvenue dans cette matinale du vendredi 13 mars 2012. Au sommaire de cette émission, pour commencer, nous découvrirons l'expo du mois. Audrey Barat a rencontré les deux artistes de la nouvelle exposition de l'Office de tourisme de Sainte-Afrique, le maître verrier Abel-Ange Clermont et le sculpteur Dominique Lutz. Puis la chronique du jour, comme tous les vendredis, promet d'être spontanée et joyeuse puisque Annie ne manquera pas de nous faire son cinéma. Mais avant toute chose, Quite Simply, le CD jazzy de la semaine.
Thank you. l'Office de tourisme de Centrafrique. L'expo du mois.
Nous sommes donc à l'Office de tourisme de Centrafrique pour la nouvelle expo du mois. On va commencer par le premier artiste, Abel-Ange Clermont. Maître verrier, comment on dit ?
Maître verrier.
Comment on devient maître verrier ?
Ah bien, il faut une dizaine d'années. Moi j'estime qu'on peut accepter ce titre au bout d'une dizaine d'années de pratique. Et en sachant que pour apprendre les rudiments, c'est sur 3 ans au minimum. Et ensuite, donc, on apprend tout le temps. Hein. Même maintenant que mon atelier date de plus de 25 ans, j'en apprends toujours.
Votre atelier, il est où ?
Dans un lieu-dit qui s'appelle Les Clarisses et qui dépend de la commune de Rebourguil. Voilà. Et je me partage également aussi sur Montpellier, dans le centre-ville, où j'ai un petit espace d'exposition et un atelier secondaire.
Ça s'organise comment, la journée d'un verrier ?
Ah.
Quand il travaille, après.
Oui, donc on est quand même essentiellement à l'atelier, puisque le gros du travail se fait à l'atelier. Ensuite, sur place, donc c'est ou la pose, ou pour la création, donc, ou la dépose préalable quand il s'agit d'un travail de restauration. Mais c'est un temps toujours très limité sur place. Hein. Tout le travail se fait à l'atelier. C'est un travail assez long dans la mesure où il y a des cuissons. Chaque verre est cuit avant d'être assemblé. Et chaque verre donc, subit plusieurs cuissons. À raison d'une cuisson par jour, parce qu'on doit enfourner dans un four froid, défourner également du four froid. Donc, et on cuit à chaque valeur d'ombre. Donc c'est un travail donc, également de peintre. Donc on peut accepter le terme de maître verrier ou le terme de artiste peintre verrier. Voilà.
C'est-à-dire que vous avez des plaques de verre et que vous...
Voilà, on a des verres qui sont déjà colorés dans la masse, d'autres verres qui sont uniquement colorés en surface, qui permet de les graver à l'acide et de faire des détails avec une autre coloration, quand on veut éviter d'avoir des réseaux de plomb pour des petits détails. Donc le verre, c'est souvent donc du verre soufflé à la bouche, et qui est découpé et qui est ensuite donc retravaillé, ou peint, ou gravé, ou émaillé, ou coloré à l'oxyde d'argent. Donc on appelle ça du jaune d'argent. Et ensuite, donc, c'est assemblé au plomb, c'est soudé à l'étain, c'est mastiqué, et ensuite c'est mis en place donc, dans les ouvertures.
Et souvent, quand on pense à vitrail, on pense à monument religieux plutôt, mais...
Et non, parce qu'en réalité, toutes les belles maisons étaient pour vous de vitraux depuis toujours, et ça s'est un peu arrêté un peu avant la guerre. Et les gens, effectivement, pendant longtemps, ont pensé que c'était réservé aux édifices religieux. Et depuis quelques années, il y a une nouvelle demande. Les particuliers se rendent compte qu'en fin de compte, pas du tout. Et il y a une nouvelle demande de la part des particuliers. Parce que c'est un vitrail dans une demeure, c'est un ravissement de tous les instants. Dès le saut du lit. Enfin, ça, on fait tout pour que ça le soit.
Et vous, c'est rempli de vitraux ?
Il y en a quelques-uns, oui. Et il y en aura encore d'autres.
Vous avez assez de murs ?
Oh oui, j'ai beaucoup d'ouvertures et j'en ai créé.
Alors avant que les invités au vernissage n'arrivent, un petit coup d'œil sur les vitraux que vous avez sélectionnés pour cette exposition. Il y a des styles assez différents.
Voilà, c'était un peu l'objectif aussi de montrer que c'est infini. Le vitrail, ça peut partir dans toutes les directions, du très contemporain au classique, au vitrail médiéval, d'inspiration orientale, puisque l'art du vitrail nous vient du Moyen-Orient.
Ah oui, Moyen-Orient.
Oui. D'ailleurs, ce panneau-là, donc, c'est une copie de panneau médiéval, et ça s'appelle donc Dama. Donc en rapport avec la ville de Dama, certainement.
Et là, derrière, celui-là, là ?
Celui-ci, donc, c'est d'après Moucha, qui se prononce Mouka, d'ailleurs, qui est un artiste hongrois, donc du 19e, début du 20e, et qui a beaucoup représenté, donc, et qui a mis... qui a mis beaucoup en valeur la femme dans différentes affiches pour le théâtre à Paris, Sarah Bernard ou autre. Et à l'occasion de, en 2008, à l'occasion d'une exposition au musée Fabre à Montpellier, donc j'étais à faire, donc ça m'a encouragé à faire un vitrail d'après cet artiste, donc avec une femme qui symbolise la danse.
Alors là, on va passer à celui-là peut-être. Hop. Celui-là, alors là.
Voilà, un vitrail très contemporain avec des verres actuels. Ouais. Donc vert soufflé, vert nouvelle antique, qui est un vert donc contemporain mais semi-industriel, plus des verres imprimés et des verres irisés. Avec deux méthodes, deux techniques différentes, montage au plomb traditionnel et technique Tiffany. Technique Tiffany qui est une technique donc, inventée donc, au 19e siècle par Tiffany, qui est issue d'une famille de joailliers et qui est célèbre pour les objets qu'il faisait donc en vitrail, tels que des abat-jours ou autres, et ce qui permet d'avoir des très fines liaisons entre les verres. Hein. Donc quand les verres voilà, sont très petits, c'est une technique que j'utilise.
Là, on est dans la thématique religieuse.
Voilà, donc ça, c'est une variante d'un vitrail que j'ai fait pour l'église de Salelles. Voilà, il y a une rosace, une grande, très grande rosace, dont il manquait la partie centrale. Vitrail du 19e, sans partie centrale, il y avait un verre de remplacement. Et lors de la restauration de cette rosace, donc, j'ai été amené à créer donc, une partie centrale et j'ai représenté Marie. Marie Sacré-Cœur.
Alors là, un grand panneau.
Oui, alors là, par contre, là, c'est une recomposition d'un vitrail, recomposition-restauration d'un vitrail du tout début du siècle, qui est un vitrail particulier. Avec un verre qu'on appelait donc un verre à pair, qui était mis au point par une verrerie à côté de Montpellier, vers le Valois-Perret. Et à partir de quelques fragments de vitraux que j'ai pu acquérir sur un marché, un vide-grenier, un marché aux puces, donc j'ai reconstitué un panneau de 2 mètres carrés avec des perroquets multicolores dans un oranger. Et par chance, donc c'est quelque chose, un projet qui me tenait à cœur, mais j'avais essayé d'utiliser du verre actuel, ce qu'on appelle un verre antique, soufflé à la bouche, mais qui ne convenait pas. J'ai eu la chance de rencontrer un atelier donc, qui exerçait depuis 5 générations et qui m'a vendu un stock ancien, donc du verre très particulier, verre à pair, et qui a permis de restaurer. J'ai eu exactement la quantité qu'il fallait, tout juste. Et voilà, donc ça fait un très beau panneau. Ouais.
Est-ce que c'est fragile ?
C'est du verre qui oscille entre 2 mm d'épaisseur et 4 mm. Donc ça peut paraître fragile et pourtant on a des vitraux du 11e siècle. Une fois en place, la technique de pose est très importante, une fois en place, un vitrail peut tenir presque un siècle. J'ai restauré dernièrement une église faite en dalles de verre, qui est une autre technique. Ici, je n'ai pas apporté d'exemple de dalles de verre. C'est du verre de 2,5 cm d'épaisseur avec du béton comme liant autour de chaque bloc de verre. Eh bien, figurez-vous qu'une église construite dans les années 60, dont les vitraux en dalles de verre étaient faits dans les années 60, ont demandé à être restaurés depuis déjà, ils tombaient complètement en morceaux depuis pas mal d'années, depuis 10 ou 20 ans. Donc vous voyez que c'est pas forcément plus solide, parce qu'on a des matériaux contemporains, des verres épais. C'est du fait de cette fragilité et en fin de compte de la souplesse du panneau, qui encaisse beaucoup mieux les intempéries. Voilà. Donc ce qu'on fait au bout d'à peu près 90 ans, c'est une remise en plomb.
Vous avez travaillé sur des monuments, dans votre parcours, est-ce qu'il y a des endroits qui vous ont marqué
Écoutez, l'église de Sainte-Afrique, j'y travaille depuis régulièrement, depuis au moins une vingtaine d'années. J'ai connu 3 ou 4 maires successifs. Oui, j'ai fait des grosses commandes à Montpellier, c'est une église contemporaine, j'ai fait 30 mètres carrés de vitraux.
Et en tant que spectateur, j'ai envie de dire que public, qu'est-ce que vous nous conseillerez d'aller visiter pour des vitraux particuliers en France ou ailleurs hein.
Oui. Mais écoutez, c'est pas quelque chose qui m'émeut, donc je ne vous le conseillerais pas. dans la région. Écoutez, il y a toute l'Aveyron est très très riche en églises. Et tous les petits hameaux, à partir de 3-4 maisons, ont leur église quasiment. Donc là, il y a beaucoup à faire déjà pour se régaler, voir les vitraux dans notre département.
Ouais. Merci. Je vais aller voir Dominique. On s'éloigne un petit peu du vernissage où les gens commencent à affluer et pour discuter avec donc le deuxième artiste de cette expo du mois, Dominique Lutz. Vos œuvres sont à côté des vitraux d'Abel-Ange Clermont. Comment vous pourriez expliquer aux auditeurs, donner une idée aux auditeurs de ce qu'ils pourront découvrir ?
Alors déjà, Abel-Ange est mon parrain, donc il m'a appris le vitrail et j'ai eu l'occasion de travailler pendant 4 ans. Dans des cathédrales, des choses comme ça, lorsque j'habitais Montpellier. Puis les circonstances ont fait que je suis parti de Montpellier, je suis allé en Haute-Ardèche. Et je me suis adapté aux matières locales. Avant Montpellier, j'ai eu fait du bronze sur Sète, donc du vitrail sur Montpellier. Et là, je travaille avec le bois local, le cerisier, le châtaignier, les pierres qui me paraissent un peu bizarres. Et j'accentue un petit peu les signes qui me parlent, sans leur donner une forme précise. J'essaie de donner juste une indication. Ça peut être du texte caché. Ça peut être des formes qui ne sont ni aériennes, ni aquatiques, ni de l'eau, ni de l'air. Donc je me dis que dans ce travail-là, j'ai envie plutôt de donner une idée de que la création est possible partout, au quotidien, dans le regard qu'on pose sur les choses. Et qu'il ne faut pas seulement chercher à comprendre, mais savoir qu'au fond de nous, il y a un cœur qui bat, un cœur qui parle, un cœur d'amour. Il ne faut pas en avoir peur. Et je n'ai pas envie de donner du sens au sens. Voilà, c'est ça ma démarche.
Donc vous vous baladez dans la nature ?
Ah, c'est mon plaisir. C'est l'Ardèche, c'est les champignons, c'est le jardin, j'adore le jardin. C'est la rivière, c'est la solitude aussi. Je vis dans un tout petit village où les habitants sont très espacés, très clairsemés, et on doit être à environ 240 habitants. C'est un choix de vie qui n'est pas facile parce qu'il n'y a rien à côté, mais on y arrive. Hein. Par contre, j'utilise peu de machines parce que je n'ai pas envie d'utiliser. Il y a peut-être une démarche écologique là-dedans. Donc j'utilise peu de matériaux synthétiques, sauf quand je les trouve, des chutes. Comme l'altuglas par exemple, c'est une matière très belle parce que le verre est difficile à travailler, il faudrait le chauffer, le mettre en forme, chose que j'ai déjà faite, mais ça demande du matériel beaucoup trop sophistiqué, beaucoup trop coûteux. Et c'est plus aussi ce travail, un travail de méditation, ou des gestes répétitifs qui, moi, me ramènent vers l'un.
Vous avez un objet, je ne sais pas si je peux dire un objet, entre les mains.
Ah, ça, c'est un objet symbolique qui n'est pas fini, qui n'est pas verni, qui a beaucoup. Que je promène avec moi et que j'appelle ma baguette magique.
Et donc, vous êtes passé du vitrail aux matières naturelles. Ça s'est fait comment, ce passage ?
En changeant de lieu de vie, comme je vous ai dit, au début, je faisais du bronze hein, dans une fonderie d'art. Parce que j'étais artisan fondeur en métaux précieux et j'ai déposé le bilan et j'ai tout de suite trouvé du travail dans une fonderie d'art sur Sète et on faisait des pièces monumentales dont une est partie au Chili qui faisait je crois plus de 3,80 m de haut, donc des pièces assez conséquentes et je faisais le tirage et le coulage de sculptures pour les artistes, c'était un atelier d'artistes. Et j'ai pu, à l'occasion, couler mes propres pièces. Qui sont restées sur la route, quand je suis parti de Montpellier, j'ai décidé de tourner une page, et j'avais une quarantaine de pièces, bronze, bois, pierre, parce que j'ai travaillé aussi avec les tailleurs de pierre, les compagnons tailleurs de pierre, pendant quelques années. Et quand je suis parti, pour ne pas avoir des bagages trop lourds, et peut-être pour tourner une page, j'ai fait cadeau de tous ces objets à mon entourage, en leur disant qu'un jour ou l'autre, il fallait les faire circuler, que l'art, il appartenait à personne.
Les objets. objets qu'on peut voir ici à l'Office de tourisme de Sainte-Afrique. Vous êtes prêt aussi à vous en séparer? Ils sont là pour que vous les fassiez, vous les transmettiez à d'autres personnes?
Oh, ça, c'est pas impossible un jour. Si je suis appelé à aller ailleurs, ce que je prévois éventuellement, mais ça, c'est... Je me laisse guider un peu par ce qui se passe autour de moi, les signes qui m'entourent, qui me guident, qui m'appellent vers quelque chose de très particulier qui m'appartient. Mais c'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, ces objets puissent circuler.
Et voir vos objets à côté des vitraux d'Abel-Ange Clermont, ça vous fait quoi ?
Eh bien, c'est Abel-Ange Clermont est venu me voir au Nouvel An cette année. Il m'avait pas vu depuis des années. Et j'organisais une exposition chez moi. J'habite dans une ancienne usine, une filature de fil à soie. Et il y a un grand hall d'entrée qui n'est pas utilisé hors saison. Et j'ai fait cette exposition-là. C'était un défi que je me suis posé au mois de septembre. Et parce que j'étais venu faire un stage vers Sainte-Afrique. Je ne sais pas s'il faut citer le lieu. C'est au couvent du Viala. Et j'ai décidé à ce moment-là de tourner une page et de tourner plus vers mon monde intérieur, ce qui peut me faire grandir, la façon de percevoir le monde et d'essayer, mais là c'est très vaniteux, d'essayer d'apporter une sérénité, une paix autour de moi, peut-être une idée de la beauté, une idée de l'amour.
Qu'est-ce que vous pensez des vitraux d'Abel-Ange ?
Ah, moi je trouve ce travail merveilleux, j'ai eu l'occasion de travailler longtemps avec lui. J'ai moi-même travaillé sur des cathédrales, parce que j'ai travaillé après 3 à 4 ans chez un maître verrier. J'ai travaillé sur la cathédrale de Chartres, sur la cathédrale de Tours, sur la cathédrale en Angleterre, en Pologne. Je ne me suis pas déplacé, ils venaient les vitraux. Donc j'ai eu beaucoup de bonheur à pouvoir toucher les vitraux de la cathédrale de Chartres, parce que j'avais l'impression d'être sur la Lune. Parce qu'on n'est pas nombreux à pouvoir les avoir touchés. Donc beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de souvenirs merveilleux. Mais la vie m'offre d'autres pistes à explorer et je prends ce qui est à portée de ma main.
Bien, Dominique Lutz, merci. Vos objets donc sont visibles à l'Office de tourisme de Sainte-Afrique aux côtés des vitraux d'Abel-Ange Clermont jusqu'au 28 avril. Merci.
Merci beaucoup.
Office de tourisme de Sainte-Afrique. L'expo du mois.
Ladies and gentlemen, nous avons l'honneur de vous présenter Annie fait son cinéma. La chronique culturelle d'Annie Dupuy.
Il fut un temps où beaucoup de films se passaient à Paris, ou à New York, ou à Los Angeles. Et maintenant, il y a au moins un film qui se passe à Bride-les-Bains. Vous avez eu, souvenez-vous-en, Saint-Tropez et ses gendarmes, Brice à Nice, Lyon et ses Lyonnais, un carnaval avec un cas à Dunkerque, les Ch'tis à Bergue, la fille de Monaco à Monaco, et aussi, bien entendu, les très distingués Tuche également à Monaco. Ah, j'oubliais, les Guédiguiers en Marseille, et là, je parle de l'auteur des neiges du Kilimandjaro, qui ne se passe pas comme on pourrait le croire en Afrique, mais fait référence à une chanson bien connue des quinquagénaires ou des sexagénaires. Bref, le cinéma peut, comme il est dit à France Culture, faire en sorte que la ville, ouvrez les guillemets, soit un personnage. La ville peut être un motif, Elle est comme une matière fluide, contrastée, paradoxale pour raconter le monde contemporain. Eh bien, Bride-les-Bains, dont la devise est « À Bride, on se débride », est une ville française située en Savoie, avec seulement 566 habitants. Et Bride, disais-je donc, a été choisie par Charlotte de Turckheim pour être le théâtre de son nouveau film « Mince alors ». C'est les Bridois qui ont été bien contents de voir en chair et en os, et plutôt d'ailleurs en chair, Catherine Osmalin, Charlotte de Turckheim et sa fille, Victoria Abril et Lola Devers, qui ressemblent fort à son défunt père. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à Bride, à part ces talentueuses actrices, accompagnées de Pascal Légitimus et de Grégory Fitoussi? Essentiellement, on peut voir donc des piscines, des spas, des fontaines à eau et des kilos. Disparu. Ah oui, j'oubliais. Il y a dans ce film quelques intrigues, un adultère, la passion d'une cougar, la dépression d'une désespérée housewife, une sœur qui se révèle être une mère, rien que du léger, comme vous voyez. Tous les ingrédients du mélo. Léger, léger, oh là là, je viens de dire le mot qui tue, mais il faut bien que je vous l'avoue, on ne vient pas à Bride pour la montagne, la randonnée et les salons de thé. On vient à Bride pour faire une cure thermale, pour perdre du poids. Et c'est d'ailleurs le cadeau que la jolie Nina reçoit de son mari. Bon pour une cure de 3 semaines à Bride-les-Bains, on ne saurait être plus élégant. Alors, cette épopée, si elle reste limitée sur le nombre de kilos perdus, 6 quand même, sera riche en rencontres humaines. Et puis, dans Mince alors, tout le monde peut s'identifier. Les très enveloppées, les moyennement grosses, les épanouies et les minces, même très minces, qui se croient grosses dans leur tête, comme Victoria Abril. Alors voilà, c'est une comédie qui plaît apparemment puisque elle bat la colère des titans. Normal. Pas tout à fait un titan. C'est grand et gros. Non. Juste retour des choses. Les critiques sont mauvaises ou inexistantes puisque la production n'a pas permis qu'il y ait des projections pour la presse. Mais les 55 000 spectateurs en France qui ont pris leur billet le jour de la sortie n'étaient pas, on s'en doute, des journalistes. Claude Miller est mort la semaine dernière. C'était un réalisateur qui a été aussi acteur, scénariste, producteur. Alors, il est le père de Garde à vue à l'époque. C'était un film qui a eu beaucoup de succès. Il a eu 4 Césars. Il est aussi l'auteur de L'Effronté, où il a révélé Charlotte Gainsbourg, et aussi de La Petite Lily, avec Ludivine Sagné et Nicole Garcia. Et son prochain film sortira, je pense, c'est Thérèse d'Esquerou, c'est tiré du roman de François Mauriac et ça devrait sortir à l'automne 2012. Une carrière exemplaire, mais qui a eu du mal à voir le jour, parce que Claude Miller a travaillé sur tous les films, de Truffaut. Alors, c'était une paternité écrasante, sauf un, La Nuit américaine, qui est le titre d'un plan de cinéma, c'est marrant. Alors, la paternité donc, de Truffaut sera lourde à porter pour Claude Miller et il attendra la maturité pour connaître enfin la réussite commerciale. Alors, on dit que Miller aimait les acteurs, mais aussi surtout les écrivains, parce qu'il a adapté bon nombre de romans. C'était, paraît-il, un homme curieux, mystérieux, secret, comme le très beau film qu'il livre en 2007. C'est un film où figure Bruel, bien sûr, Cécile de France, Ludivine Sagné et Julie Depardieu. Oui, Miller aimait les acteurs, mais aussi beaucoup les actrices.
CD de la semaine. Le CD de la semaine.
Le CD de la semaine.
Sur Radio Saint-Taf.
Tanta dor pra se saber que aconteceu pra não esquecer.
Tanta dor pra se saber que aconteceu pra não esquecer. Gente, gente no vagão, mal podíamos respirar.
A angústia no sermão acaba sempre por chegar. Sarilho.
Quem diria, quem diria, tua terra é esse sarilho. Bagau de ferro para o tivés, amontou ango ser humano.
Ferruja com a linha, entoando a maldição.
Eu pronto. Eu grito,
suor e sangue da arada. Eu pranto, eu grito,
suor e sangue da arada. E dia quem diria, tua terra é sincerio. Pagou de ferro para o de vez, amontoando o ser humano.
Enferruja com a linha, entoando a maldição.
Eu pronto, eu grito,
suor e sangue da arada. Eu pranto, eu grito, suor e sangue da arada.
Et quelle sensibilité! C'est le dernier album de Bonga. Et dans cette chanson, vous aurez peut-être aussi reconnu la délicieuse voix d'Agnès Jaoui. Bonga est un artiste fort engagé politiquement, puisqu'il a commencé dès les années 70 à dénoncer la colonisation portugaise de son cher pays, l'Angola. Ses albums Angola 72 et Angola 74 sont centrés sur ce sujet. Oracota, c'est donc son 30e et dernier album. 30e, c'est quand même beaucoup, hein. On y trouve deux chansons en duo, une avec Bernard Lavillier et l'autre que vous venez d'entendre avec Agnès Jaoui. N'hésitez pas à retrouver ce CD de la semaine sur le site internet de Radio Saint-Afrique. Il est temps de se quitter. Merci à Audrey Barat qui nous a fait découvrir l'exposition du mois de l'Office de tourisme de Saint-Afrique et à Annie Dupuis pour sa chronique cinéma. Enfin, merci à Chloé à la technique. On se retrouve donc lundi prochain à 10h10. En attendant, bon week-end à toutes et à tous.